Donc en fait, en effet, mon intervention va reprendre en grande partie des interventions précédentes. Elle va leur faire écho, notamment celle de Marie-France Bishop. Elle devait faire écho, en effet, à celle de Joachim Dolz, qui viendra peut-être. Et je me suis penché dans le cadre de mon travail de thèse, et je continue à réfléchir à partir d'autres genres littéraires, sur l'accompagnement de l'écriture par des professeurs, en l'occurrence qui sont des professeurs débutants. Comment s'y prennent-ils pour accompagner l'écriture des élèves, et ce, de l'école primaire jusqu'à la fin du secondaire, en l'occurrence dans deux pays de la francophonie, en France et en Belgique francophone. Voilà. Donc j'ai intitulé cette intervention « Quels étayages à l'écriture de récits ?» Ce n'est pas une intervention prescriptive, c'est simplement une description de ce que l'on observe. Je me suis donné pour objectif, dans le cadre de mon travail de thèse, d'écrire et de me donner une méthodologie pour pouvoir décrire avec le plus de précision possible ce qui est réellement effectué par des enseignants face à des élèves qui ont un certain niveau. Voilà. Alors, comment des professeurs donc du primaire et du secondaire guident-ils les élèves dans l'écriture de récits? C'est ma question de recherche. Parce que, après 17 ans où j'ai exercé les fonctions de formateur, souvent une question qui revient, c'est jusqu'où aller dans les conseils donnés dans la détection des dysfonctionnements et les demandes de révision. Voilà, donc c'est une question qui m'a souvent été posée, et ça pose le problème de la directivité de l'enseignant, et ça pose le problème de l'autonomie des élèves. Alors, j'ai voulu aller vite hein, sur les difficultés nombreuses pour les élèves et également pour le professeur qui désire accompagner les productions en cours de réalisation. Les élèves éprouvent des difficultés, mais le professeur en éprouve également, parce qu'il doit découvrir une multiplicité d'écrits et réagir à chaud à ces écrits, projeter un petit peu ce qu'ils peuvent devenir, parce qu'ils sont en construction, et réagir face à leur potentialité. Donc les objectifs que je me suis donné dans le cadre de cette communication, c'est d'analyser la diversité des formes d'accompagnement, et d'essayer de vous donner une idée de ma méthodologie et de ma typologie des formes d'accompagnement que j'ai décelées par mes observations, puis de dégager des principes de développement des compétences à partir des descripteurs correspondant à des paliers de compétences successifs. Ça, c'est l'objectif de la formation. Je ne suis pas sûr d'atteindre cet objectif, mais je vais donner quelques pistes de réflexion, puisque en fait j'ai un spectre très large. J'ai travaillé sur des pratiques de CE2, de CM1, de CM2, de 6e, de 4e, de 2e et de 5e technologique en Belgique, c'est-à-dire des classes de première. Donc voici le corpus que j'ai recueilli entre février 2006 et juin 2009. Ça correspond à 50 heures d'enregistrement. Donc il y a des pratiques belges, c'est le cas de Paul et de Aude, ce sont des pseudonymes, hein, donc qui sont des professeurs du secondaire supérieur en Belgique francophone, et nous avons un équivalent français, c'est Lise, qui est professeure stagiaire en classe de seconde. Nous avons un même professeur que j'ai observé dans deux situations d'écriture différentes, en classe de 6e et en classe de 4e, c'est intéressant justement de voir comment elle réagit face à des élèves donc de deux niveaux différents et face à deux genres différents, la fable d'un côté et l'écriture de nouvelles fantastiques de l'autre côté. Et enfin, nous avons deux professeurs d'école primaire qui sont des professeurs stagiaires, donc l'une que j'ai appelée Sarah et l'autre que j'ai appelée Cyril. L'une en CE2 fait écrire des fables, et l'autre fait écrire des nouvelles fantastiques. Ce sont donc deux genres qui sont assez présents partout, à tous les niveaux dans l'éducation, enfin dans le curricula. En fait, ils ont tous, pour ce qui est des nouvelles fantastiques, écrit à partir d'images. Et en l'occurrence, à partir de mêmes images, sauf dans le cas de Aude, qui a travaillé à partir de d'images de films. Hein, sinon, c'est à partir d'un album littérature jeunesse, Les Mystères d'Harris Burdick, y compris pour Lise, qui était la pratique Prinkeps, celle que j'ai enregistrée en premier de façon écologique. J'ai enrichi ces observations par des pratiques sur d'autres genres, de façon plus récente. Hein. Ce sont mes dernières études sur les récits épistolaires. Certaines sont, concomitantes d'un point de vue temporel avec mes premières observations de 2006 ou 2009. Des pratiques d'écriture d'aventure d'Ulysse dans l'Odyssée, des pratiques d'écriture de contes à l'école primaire, merveilleux et théologique, et je retrouve un petit peu à première vue, hein, il faudrait donc j'aille plus loin dans mes observations, et c'est en cours, des résultats similaires. Et une pratique de récit libre en primaire 1, donc je ferai prochainement une intervention sur cette pratique au colloque de Colmar. Donc en tout, 14 enseignants, plus de 80 heures d'enseignement. Donc quelles difficultés liées à l'écriture de récits ? Mon intention était d'aller vite parce que je pensais que quelqu'un aurait déblayé ce champ. Écrire une fiction, c'est une activité complexe, hein, comme l'ont montré Eyes et Flower. Il y a risque de surcharge cognitive pour l'élève, tout le monde le sait. Et Brassard souligne que pour Berreiter et Scardamalia, il y a nécessité de penser à des facilitations procédurales. Ce qu'ils appellent facilitation procédurale, le terme est bien connu, il a été repris par Claudine Garcia Debord notamment. C'est tout dispositif qui tend à réduire les charges de traitement imposées par l'exécution d'une tâche et qui permet aux élèves de faire un usage plus complet des savoirs et savoir-faire qu'ils ont déjà en dépassant leurs limitations fonctionnelles. Donc, quelles difficultés pour les élèves ? Elles sont multiples et elles dépendent de différents lieux d'intervention didactique et à l'intérieur de ces lieux d'intervention didactique, il y a des niveaux d'analyse multiples qui sont à gérer par les élèves. Alors, les lieux d'intervention didactique, ce sont les lieux linguistiques. Ça reprend un petit peu ce qu'on trouve dans le tableau EVA, hein, la grille EVA que vous connaissez tous. Donc, linguistique, sémantique, pragmatique, puis matériel, hein, qui est une notion un petit peu mouvante. J'ajoute tout ce qui est d'ordre littéraire, qui est assez absent de la grille EVA, comme on sait, et les procédures. Alors, au sein de ces lieux d'intervention didactique, il y a différents lieux, il y a différents niveaux d'analyse à gérer. On peut dire d'une façon globale, hein, la langue à l'intérieur de ce qui est linguistique, les choix énonciatifs. Bien sûr, en le formulant comme ça, dans le cadre de cette diapositive, c'est loin d'être exhaustif, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, les choix narratologiques pour ce qui est du littéraire, hein, les notions de point de vue, de voix narrative, les critères génériques, les références littéraires qui peuvent être les références intertextuelles. Pour ce qui est de la sémantique, les contenus textuels, la psychologie des personnages et leurs liens, tout ça c'est extrêmement difficile à gérer. Hein, on sait que parfois les élèves sont embarrassés pour ils savent pas quoi dire, ils savent pas comment commencer leur texte. Le cadre spatio-temporel, hein, si bien sûr on leur demande d'écrire un récit qui se passe au Moyen-Âge, ça va être un obstacle, parce qu'ils n'ont pas forcément une connaissance approfondie de cette période. Ça dépend si en histoire ils l'ont travaillé, ça dépend ce qui a été fait en littérature auparavant. Écrire renvoie aussi à une nécessité d'avoir des savoirs sur le monde et de faire des liens entre récit et morale quand on écrit une fable. Et cette abstraction est particulièrement difficile également. Plus les élèves grandissent, plus on leur demande de produire des effets sur le lecteur. C'est le cas notamment donc avec l'écriture de nouvelles fantastiques. Il faut faire peur. Et puis, il faut aussi apprendre à gérer différents supports matériels d'écriture. Et on sait que, par exemple, l'écriture au clavier pose un certain nombre de problèmes par rapport à l'écriture manuscrite qui en pose d'autres. Bref, les élèves peuvent avoir besoin aussi d'étayage au niveau des procédures, parce que l'écriture implique de mémoriser la consigne, de la suivre. Et puis, ça nécessite aussi de se mettre d'accord avec ceux avec qui on écrit quand il s'agit d'une écriture collaborative, et on n'a pas tous le même scénario en tête. Il faut bien planifier et se mettre d'accord sur ce que l'on va raconter, sur les personnages qu'on va mettre en scène, etc. Bref, les procédures peuvent être liées à l'élaboration et le suivi d'un plan. Après, il peut y avoir des problèmes de révision, il faut se partager le travail, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture collaborative. C'est presque, on va dire, l'intégralité de mes observations. Alors, bien sûr, s'il y a autant de difficultés pour les élèves, cela en génère d'autres pour les enseignants qui y peuvent aussi se recouper, hein. Et la question que j'avais soulevée tout à l'heure, une question qui m'est souvent posée, c'est jusqu'où aller dans les conseils de réécriture avec tel niveau donné? Comment accorder de l'attention à tous? Et une des fonctions de l'étayage, nous dit Brunner, c'est aussi d'enrôler les élèves dans la tâche. Bon, alors il faut faire tout ça. Il faut exposer clairement la consigne. Il faut anticiper sur les possibles narratifs de la production des élèves pour juger de la validité d'un écrit qui est en construction, de juger des limites de cet écrit, ce qu'il peut devenir, quels problèmes l'élève risque de rencontrer et éventuellement lui faire mettre le doigt sur un certain nombre de problèmes qu'il va pouvoir anticiper et essayer de résoudre. Et puis, l'enseignant va devoir réagir à toutes sortes de sollicitations imprévues, y compris en lycée, par exemple, des questions d'ordre historique auxquelles le professeur de français n'a pas forcément une réponse. Alors, comment réagit-il dans ces cas-là? Bref, j'expose maintenant ma méthodologie. J'ai filmé. Alors, donc voilà, quelles difficultés pour les enseignants. De toute façon, je vais revenir dessus, hein, c'est-à-dire que je vais reprendre, puisque en fait, c'est l'objet de toute mon intervention. Alors, au niveau méthodologique, j'ai eu besoin de transcrire in extenso tout ce qui a été dit entre le professeur et les élèves. C'est-à-dire que j'ai filmé et j'ai porté la caméra, j'ai suivi avec la caméra le professeur dans ses déplacements et j'ai capté les paroles, les échanges, les interactions didactiques entre les élèves et les professeurs, donc puisqu'il s'agissait d'une écriture collaborative. J'ai procédé à des entretiens ante-séance et post-séance, ante-séquence et post-séquence. J'ai ramassé tous les documents que je pouvais sur la progression annuelle. J'ai photocopié les cahiers de texte quand il y en avait. J'ai procédé également à des entretiens avec les élèves pour essayer de cerner comment ils ressentaient les étayages qu'ils avaient reçus. Enfin, j'ai filmé les copies en train d'être écrites dans les différentes versions. Et voilà. Et pour m'aider un petit peu, j'ai analysé ça avec quelques logiciels, Trop, Sphinx, pour les comptages. Alors, vous voyez, je vous ai mis, par exemple, ici, je me suis dit que ça pouvait intéresser le maximum d'entre vous, une pratique de sixième sur l'écriture de fables. On est un petit peu à... puisque je savais qu'il y avait un public d'école primaire, un public de gens qui enseignent à l'école primaire et un public de gens qui enseignent dans le secondaire, je me suis dit que c'était un petit peu l'articulation, que ça pouvait du coup intéresser beaucoup de gens. Et puis, donc, s'il s'agit d'une écriture, d'un accompagnement à l'écriture de fables. Alors, pour ce qui est de l'étayage et de mon analyse des étayages, j'articule trois choses. Le moment de conception, le degré d'intervention et les lieux d'intervention didactique qui eux-mêmes renvoient à certains niveaux d'analyse. Alors, je vais expliciter un petit peu ce dont il s'agit. Ce triple engrenage, en fait, en comporte un quatrième qui est l'effet produit sur les élèves. Mais je ne le traite pas ici tout de suite. Alors, ces engrenages, c'est ce que j'appelle les unités étayantes et c'est ce que vous voyez sous forme de commentaires dans les marges des documents que j'ai distribué, et ça correspond à des phases qui sont grisées dans les interactions didactiques. Alors, je définis les unités étayantes. La définition, je ne pense pas que vous ayez le temps de la noter. Ce sont des unités discursives qui visent à répondre à un problème que les enseignants rencontrent. Ce sont des unités discursives qui alimentent les échanges et l'activité de tutelle. Elles s'étendent, selon les cas, sur une partie de tour de parole, sur un tour de parole complet ou sur une pluralité de tours de parole au sein d'un échange, voire sur un échange complet. Mon but est de compter ces unités étayantes dans une séance, dans une séquence, pour voir ensuite lesquelles sont sollicitées et à quel moment. Donc ce qui permet de délimiter une unité étayante est la conjonction de ce que je vous ai montré précédemment, ces engrenages, c'est-à-dire le degré d'intervention de l'étayage, et je vais expliquer ce dont il s'agit, de la thématique sur laquelle porte l'étayage ou les lieux d'intervention didactique, ce qui correspond à un problème, et un seul ou plusieurs niveaux d'analyse qui s'articulent entre eux, ce que je code ensuite par des signes un petit peu abscons et que je vais expliciter. Le moment de l'étayage, je reprends ici une distinction de Josette Gadot en 1984, qui distingue trois moments, les étayages a priori en situation ou posteriori. Les étayages a priori, c'est les étayages qui interviennent avant l'écriture des élèves. Alors, j'ai mis ici la photographie d'une grille d'écriture quand elle n'est pas négociée avec les élèves et quand elle est imposée au moment de la planification enseignante à des élèves qui la découvrent au moment de l'écriture. Donc ça, c'est l'étayage a priori. C'est-à-dire que l'enseignant anticipe un certain nombre de difficultés. Et pour remédier à ces difficultés, il fait figurer certains critères dans la grille pour aider les élèves. Il y a les étayages en situation, c'est-à-dire les conseils qui vont être donnés par la parole ou éventuellement au tableau au moment de l'écriture au fur et à mesure qu'on rencontre un certain nombre de difficultés. Et ces étayages en situation, en fait, correspondent à au moment où les élèves commencent à écrire et on découvre des problèmes, on essaie d'y remédier. Et enfin, il y a les étayages a posteriori, qui correspondent aux annotations sur les copies évaluées. En fait, c'est sur la production finale, hein, on met des commentaires, en vue de d'aider les élèves à réussir des écrits similaires dans une prochaine production. Voilà. Donc j'appelle ça étayage a posteriori, une fois que l'écriture est terminée et ça, on va dire ça, ils sont destinés à des productions futures. Je me suis appuyé sur ce que j'appelle le degré d'intervention, hein, et je m'appuie en cela sur une distinction qu'on trouve chez Bucheton et qui est bien connue. Les termes de pilotage, de tissage, de guidage et de correction que vous voyez en marron sont empruntés directement aux travaux de Dominique Bucheton et Olivier de Zutter. J'ai ajouté un certain nombre de termes qui me sont propres, la notion de sollicitation détournée, de guidance que je distingue du guidage. Et dans les corrections, je distingue les corrections sémantiques et linguistiques. Vous avez vu que je fais figurer ça dans une pyramide. En fait, la sollicitation détournée, c'est quand un élève demande à l'enseignant une question. Par exemple, j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une question de nature historique. Est-ce que au Moyen-Âge, telle cathédrale avait été construite? J'en ai besoin pour écrire mon récit. L'enseignant de français, en général, ne sait pas forcément répondre à la question, surtout qu'il n'a pas la documentation sous la main pour pouvoir rechercher. Et il dit, dans ces cas-là, eh bien, écoute, tu chercheras à la maison. Hein, donc là, c'est ce que j'appelle une sollicitation détournée. C'est un moyen, donc, on va dire, de répondre quand même à la question qui est posée, tout en, on va dire, ne répondant pas. Alors ça peut être aussi par ignorance, hein, comme c'est le cas ici, ça peut être aussi un choix pédagogique parce que le professeur estime que l'élève doit pouvoir, s'il réfléchit, trouver la réponse par lui-même. Ensuite, nous avons la notion de pilotage qui peut renvoyer à différentes réalités. Hein. Ça peut être un pilotage instrumental quand le professeur dit « va prendre le dictionnaire qui est dans l'armoire et aide-toi du dictionnaire dans différents buts pour vérifier l'orthographe, pour vérifier le vocabulaire, etc. » Ça peut être un pilotage instrumental, ça peut être un pilotage d'autorité quand il intervient sur la discipline, ça peut être un pilotage d'autre nature, on parle aussi de pilotage didactique, enfin, je pense que ces termes vous sont connus. Bien. Le tissage renvoie à des étayages, par exemple, d'intertextualité, c'est-à-dire des étayages littéraires, par exemple, des œuvres qui ont été lues précédemment et que l'on va réutiliser pour écrire, en prenant des exemples précis dans des ouvrages qu'on a lus, ou des connaissances passées de nature plutôt grammaticale. Je distingue donc, j'en ai eu besoin parce qu'il me semble que c'est une distinction pertinente en accompagnement de l'écriture, je distingue les guidances et les guidages. Les guidances, en fait c'est le même terme, hein. Guidance est plutôt employé par les didacticiens anglo-saxons et guidage est plutôt employé par ceux qui écrivent en français. En fait, guidage serait une traduction de guidance. En réalité, moi j'ai eu besoin de distinguer les deux. Alors guidance, j'emploie guidance quand ça renvoie à des conseils très généraux. Par exemple, le rappel de ce qu'est le schéma narratif dans les cinq étapes. Ton récit doit commencer par une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, etc. C'est un conseil que l'on peut donner à un groupe, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. En fait, je parle de guidage quand le professeur entre véritablement dans la copie et traite des problèmes qui sont spécifiques à ce qui a été écrit, sur tel personnage qui a été créé, etc. Le guidage va traiter, on va dire, des choses assez globales dans la copie aussi, mais avec une relative précision par rapport à ce qui a été relativement, enfin, par rapport à ce qui a été écrit. Et ça répond à quelque chose qui est singulier. La guidance répond à quelque chose qui est transposable d'un groupe à l'autre. Voilà, je pense que dit comme ça, c'est relativement simple. Ensuite, je distingue dans l'engagement croissant du professeur dans l'élaboration ou la révision du texte, on va dire l'engagement ultime, c'est la correction, c'est-à-dire quand le professeur donne la réponse. La différence entre guidage et correction, c'est que quand le professeur procède à un guidage, il donne des pistes de solution, mais il ne donne pas la solution. Quand il s'agit d'une correction, le professeur dit « c'est ça la réponse ». Donc cette correction peut être sémantique, c'est-à-dire il peut proposer tel événement qui se passe dans le récit et l'imposer. Ou ça peut être des corrections linguistiques. Et quand on parle de correction linguistique, on sait bien de ce dont il s'agit. Hein. C'est corriger une faute d'orthographe, par exemple. Hein. Alors, je me suis appuyé donc pour faire naître les distinctions au sein des étayages des travaux de Hayes et Flower en 1980, hein, qui distinguent des difficultés d'ordre mémoriel pour maintenir l'orientation de la consigne, par exemple. Des élèves refusent ou ont des difficultés pour planifier leur texte, certains manquent de motivation, on constate aussi des dysfonctionnements dans la mise en mots des idées, ce qu'on appelle dans les travaux de Hayes et Flower la textualisation. Certains ont des difficultés pour mobiliser des savoirs stockés en mémoire, c'est-à-dire ces fameuses connaissances sur le monde. Et certains éprouvent des difficultés de révision du texte, donc on vient d'en parler, ces ajouts, ces opérations textuelles, ajouts, suppressions, substitutions, déplacements. Voilà. Alors tout ça, je le code, hein, par commodité, avec des abréviations, CG pour consigne, PR, PL, CT, c'est processus rédactionnel de planification sur les contenus textuels, et puis PRT, c'est processus rédactionnel portant sur la textualisation, et tout ça s'articule pour que je puisse compter. Donc le but, c'est, une fois qu'on a défini le nombre d'unités étayantes, de pouvoir ramener ça en termes de pourcentage pour savoir ce qui se fait vraiment. Donc, ma cartographie des étayages en écriture de fiction, on peut distinguer en fait deux choses, ce qui est de l'ordre de la planification et ce qui est de l'ordre de la textualisation et révision. Et j'ai mis ensemble parce qu'on vient de dire justement que c'était difficile de les dissocier. Pour ce qui est de la planification, alors, les étayages peuvent porter sur les effets à produire sur le lecteur, sur la construction d'un début de récit, parce que souvent les élèves bloquent en début de récit pour écrire les premières phrases, sur la construction des péripéties, du dénouement de l'histoire, ou construire un réseau de personnages. Tout ça, c'est accompagné par des abréviations qui me permettent de compter. Pour ce qui est de la textualisation et la révision, les difficultés que j'observe, c'est des difficultés pour gérer les dialogues, pour gérer les descriptions, pour gérer les différents points de vue, les voies narratives, ou pour gérer les problèmes morphosyntaxiques ou lexicaux. Voilà. Donc, ce qui donne, si on met ça en sous forme de tableau, ça ressemble un peu à une usine à gaz, hein, je suis désolé, mais... bon. Oui, mais j'en ai parfaitement conscience. Donc, en fait, vous avez les étayages d'ordre pragmatique qui sont classés dans ce tableau, c'est le suivi des consignes, produire des effets, lisibilité, compréhension, morale, aspect matériel, situation d'énonciation. Les étayages d'ordre sémantique, c'est les contenus textuels. Le fait d'ajouter des idées pour le texte fantastique pour qu'il soit plus ambigu, hein, pour qu'on puisse hésiter entre une explication rationnelle ou une explication irrationnelle. Pour ce qui est des étayages d'ordre sémantique, il y a aussi les problèmes de cohérence textuelle sémantique, de structure du texte, etc. Hein. On peut proposer des possibles narratifs, il pourrait se passer ça dans ton histoire. Et bien sûr, le schéma narratif ou le schéma actentiel insiste beaucoup sur le récit lui-même, c'est-à-dire que là, sur le contenu, hein, plus que sur la narration, on le sait. Et c'est la limite, justement, du schéma narratif. Ensuite, il y a les étayages d'ordre linguistique, et je vais essayer de compter combien il y a d'interventions sur le lexique, combien il y a d'interventions sur la rhétorique, sur la cohésion, sur la ponctuation, sur la morphosyntaxe, sur les stéréotypes linguistiques, sur l'énonciation, sur la versification. Quand on écrit des fables, les élèves peuvent avoir le désir d'écrire en vers. Et à partir de la sixième, ils en manifestent le désir. Voilà, donc tout ça, finalement, qu'est-ce qui est vraiment présent dans les classes et en quelle proportion? C'est la question que je me suis posée. Et essayer de faire, une cartographie de ce que l'on trouve à l'école primaire, ce que l'on trouve au collège et ce que l'on trouve au lycée. Voilà, donc ça vous paraît tout à fait incompréhensible, mais ce n'est que, si vous voulez, l'abréviation de ce que je viens de vous raconter. Derrière, il y a quelque chose. C'est simplement pour compter quand j'utilise l'informatique. Voici donc un exemple de codage au sein d'unités étayantes, au sein d'un tour de parole. Voici Cyril, qui est professeur, donc stagiaire, et qui fait écrire des nouvelles fantastiques en ZEP au mois de juin. Il dit « Tu as vu les fautes, s'installa, c'est s'installa ». Et l'élève utilise le correcteur orthographique sous l'impulsion du professeur. Alors là, c'est une correction orale sur le processus rédactionnel de révision, portant sur le contenu textuel et textualisation et sur le lexique. En dessous, le professeur continue à parler au même élève en disant « Par contre, l'ordinateur, il corrige l'orthographe, mais il ne corrige pas le sens. Il faut que vous relisiez tout une fois pour voir si vous n'avez pas oublié des mots, parce que lui, il ne le verra pas. » Là, nous avons en fait une guidance procédurale, parce que le conseil porte sur comment il faut faire. Il faut relire pour écrire. Une guidance procédurale, c'est orale, portant sur le processus rédactionnel de révision et sur le lexique. Alors, vous avez passé le plus difficile. Hein. Voici les résultats, qui va sans doute être plus intéressant pour vous. Donc, les résultats des pratiques que j'ai observées. D'abord, pour les quatre classes observées, concernant l'accompagnement de l'écriture de nouvelles fantastiques. Finalement, qu'est-ce qu'on observe quand on compte les unités étayantes et qu'on les ramène en termes de pourcentage? Eh bien, ce que l'on constate, c'est que la narratologie appliquée, l'utilisation du schéma narratif ou du schéma actantiel est omniprésente quand on fait écrire des nouvelles fantastiques. Or, quand on fait écrire des fables, ce n'est pas utilisé dans les pratiques que j'ai observées. Le tissage est plus présent dans le secondaire qu'à l'école primaire. C'est-à-dire que les professeurs du secondaire que j'ai observés sollicitent plus le lien lecture-écriture dans le secondaire qu'à l'école primaire. Les interventions sur la langue dans la classe de Cyril et d'Isabelle, alors Cyril, CM1, CM2, et Isabelle, classe de 4e, sont nombreuses. En revanche, au lycée, Lise, professeur français en classe de seconde, et Aude, professeur de fin de secondaire en classe de 5e technologique, c'est-à-dire première technologique pour nous en France, n'interviennent pas sur la langue lors de l'accompagnement de l'écriture. La langue, en revanche, elle est évaluée seulement dans les productions finales, mais elle n'est pas un objet d'étayage. C'est-à-dire que quand les copies sont corrigées, les élèves sont sanctionnés sur la langue, alors que lors de l'accompagnement, il n'y a pas eu d'accompagnement sur la langue. Les enseignants se focalisent principalement sur des unités étayantes liées au contenu textuel, plus que sur les caractéristiques génériques. Or, la nouvelle fantastique a quand même un certain nombre de contraintes au niveau des caractéristiques génériques. Donc voici pourquoi je vous parlais de pourcentage. Ce qui me permet d'arriver à ces conclusions, c'est que j'ai compté. J'ai compté 205 unités étayantes dans la séquence de Cyril. Or, sur ces 205 unités étayantes, il y en a 14 qui portent sur le lexique. Ça représente 7%. Si on compare avec la pratique d'Isabelle, nous avons 289 unités étayantes dans sa pratique et 31 portent sur le lexique, ce qui représente 11%. Et si on compare les deux, Cyril, quand il fait des étayages sur le lexique, ce sont des corrections à 57%. Tandis que Isabelle, ce sont des principes plus généraux, ce sont des guidances qui dominent. Pour ce qui est de la morphosyntaxe, Cyril intervient au niveau de 13 unités étayantes sur 205, sur la morphosyntaxe, c'est-à-dire que ça représente 6,5%. Le pourcentage peut sembler faible, mais en réalité, par rapport au reste, c'est un pourcentage qui est déjà relativement fort, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. C'est-à-dire que quand on étaye l'écriture, vous avez vu, il y a énormément de choses dans les tableaux précédents qui entrent dans les paramètres sur lesquels on peut intervenir. Isabelle intervient au niveau de la morphosyntaxe à un niveau de 11,5%. Et les guidages dominent. 9% sur la cohésion et la ponctuation, pour ce qui est de Cyril. 15 unités étayantes sur 18 unités étayantes sur la cohésion et la ponctuation sont des corrections, ce qui représente 83,5%. C'est-à-dire que quand Cyril intervient sur la cohésion et la ponctuation, il corrige directement les erreurs de ponctuation qu'il rencontre. Il ne fait pas réfléchir les élèves pour leur permettre d'améliorer la ponctuation. Alors, en revanche, Isabelle intervient moins sur la cohésion et sur la ponctuation, mais quand elle intervient, c'est plutôt de l'ordre du guidage. C'est-à-dire que elle repère des dysfonctionnements, elle les signale et elle laisse les élèves traiter ces dysfonctionnements. En réalité, on se rend compte que si on prend les chiffres globalement pour l'ensemble de la séquence et si on prend par exemple une séance particulière, on peut observer un certain nombre de variations. Par exemple, en séance 4, 45% des unités étayantes dans la pratique de Cyril, porte sur le lexique, la morphosyntaxe et la cohésion ponctuation, dont 75% sont des corrections. Ça veut dire qu'en fin de séquence, Cyril traite majoritairement les problèmes de lexique, de morphosyntaxe et de cohésion ponctuation. Et ça répond à un souci qu'il a mis dans les grilles d'écriture, à savoir qu'il a demandé des phrases courtes et compréhensibles. En cela, il est lors de cette séance 4, dans un modèle de la rédaction, où justement la morphosyntaxe, la correction de la langue est extrêmement importante. De la même façon, on observe que dans la dernière séance d'Isabelle, 50% des unités étayantes portent sur lexique, morphosyntaxe, cohésion, ponctuation, elle est aussi, dans la dernière séance, dans un modèle de la rédaction qui revient en force. Bref, alors, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, hein, c'est simplement pour vous montrer comment je travaille, mais, je vais plutôt vous donner les conclusions, c'est-à-dire que dans la pratique de l'école primaire, nous avons la présence de plusieurs guidances a priori écrites, et que du fait de la présence de ces guidances a priori écrites, le professeur, donc, en d'autres termes, pour m'exprimer plus clairement, par la présence d'une grille de réécriture conçue non pas en concertation avec les élèves, mais lors de la planification enseignante, par le fait qu'un certain nombre de conseils sont écrits, il va éviter de les redire oralement. Et donc, que les guidances, a priori, il cherche à ce qu'elles ne fassent pas double emploi avec les conseils oraux qu'il donne. Sa grille d'écriture et d'auto-évaluation, puisqu'il en a deux, une grille d'écriture et une grille d'auto-évaluation où les élèves s'auto-évaluent. Il y a aussi une troisième grille qui est une grille d'évaluation. Ces grilles distinguent le niveau de l'histoire et le niveau de la langue. Donc, par le fait qu'il utilise ce genre de grille, il se place, et vous voyez, c'est ce qu'on appelle, avec Claudine Garcia de Ban et Marie-France Bishop, les modèles disciplinaires en acte. Un modèle disciplinaire en acte, c'est quelque chose de composite où le fruit des curricula précédents se mêlent les uns aux autres. Il y a, on l'a vu précédemment, le modèle de la rédaction quand il intervient massivement sur la langue en séance 4, mais il y a aussi le modèle de l'évaluation critériée qui intervient par ce qu'il a prévu a priori. Et comme on vient de le dire à l'instant, la conception étapiste est visible dans sa pratique. C'est-à-dire qu'il a une fiche repère, si on commente cette grille d'écriture. Étape 1 et 2, c'est la compréhension de la consigne. L'étape 3 et 4, c'est l'invention de l'histoire. L'étape 5, c'est la textualisation, on se met à écrire. Et l'étape 6, c'est la révision puis l'édition. On est ici dans, on va dire, la filiation de inventio dispositio, c'est-à-dire la rhétorique antique. Alors, Cyril, il se réfère au schéma narratif simplifié. Quatre étapes simplement, introduction, élément perturbateur, action et situation finale. Donc là, il est dans un modèle narratologique et il s'inscrit dans une écriture coopérative en projet, c'est-à-dire qu'il demande à ce que ces nouvelles soient mises en recueil et qu'elles soient disponibles pour les élèves des autres classes pour qu'ils puissent lire les nouvelles à la bibliothèque. Donc il y a un projet de socialisation. Donc, il valorise l'invention et il essaie de faire jouer l'interaction entre pairs pour l'écriture et la révision. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien dans cette pratique-là. Si on compare avec ce qui se passe en quatrième, Isabelle utilise également une grille d'écriture, mais une grille qui distingue fond et forme. Cette grille d'écriture, elle est tout simplement empruntée à un site internet. Et en cela, elle est également héritière, cette pratique, du modèle de l'évaluation critériée. Elle valorise des brouillons elle valorise l'usage du brouillon et des ratures et incite donc à faire des ratures, hein, parce que pour elle, c'est un brouillon réussi. Donc en cela, elle se place dans la perspective du sujet écrivant et des écrits de travail. Et elle utilise quelque chose aussi qui est de l'ordre de la narratologie, puisque au lieu d'utiliser le schéma narratif, elle demande donc aux élèves de réutiliser la structure d'un texte fantastique, c'est-à-dire une introduction réaliste, une fin ambiguë avec hésitation entre explication surnaturelle et rationnelle. Et enfin, elle fait beaucoup travailler sur les descriptions et la notion de point de vue. Ce qui n'est pas forcément très fréquent quand on parle d'écriture, alors que c'est une pratique très courante en lecture. Elle se place aussi dans une approche coopérative en projet. Et contrairement à Cyril, elle sollicite beaucoup le lien lecture-écriture en faisant référence aux lectures antérieures, qui est la lecture d'une œuvre intégrale, L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. Elle se réfère aussi à une autre œuvre intégrale, Continuité des parcs de Cortázar, et La nouvelle apparition de Maupassant. Pour ce qui est du lycée ou de la fin de secondaire, nous avons Lise qui, en fait, s'inscrit, on va dire, dans une annonce d'atelier d'écriture. Voilà. Elle dit qu'elle va faire un atelier d'écriture avec les élèves et elle va privilégier une réflexion métascripturale, notamment sur les opérations textuelles, en observant ce qui se passe dans des réécritures entre version littérature jeunesse et version pour adultes à partir d'une nouvelle de Marguerite Yourcenar, Comment Van Gogh fut sauvé des eaux. Beaucoup de tissage, donc. Alors, c'est un tissage particulier parce que c'est un professeur qui enseigne pour la première année à temps complet. C'est un professeur qui enseigne pour la première année en classe de seconde et elle va, tous les tissages, toutes les références littéraires qu'elle va faire vont être des références en lien avec la littérature de jeunesse. Et elle va se référer au mystère d'Aris Burdi qui est conseiller dans les programmes de collège en Belgique et qui figure dans les œuvres préconisées à l'école primaire. Elle va se référer à des dessins animés, Dumbo, etc., et à des inducteurs d'écriture qui sont albums littérature jeunesse. Voilà, des choses qui peuvent paraître assez enfantins, en fait, ça peut paraître assez enfantin à des élèves de lycée de 16 ans. Si on compare avec Aude, Aude est un professeur qui refuse l'outil informatique parce qu'elle a peur du plagiat. Elle a peur que les élèves aillent chercher des choses qui existent sur Internet. Elle interdit l'usage de l'informatique. Elle ne fait, comme je l'ai dit, aucune intervention sur les problèmes de langue, ni sur les constructions ou le style, alors que les élèves ont de très forts besoins. Ce sont des élèves qui sont des élèves de première technologique. Alors, je pense que... Il y a des élèves qui font, on va dire, plus de 50 fautes d'orthographe par page. Et c'est des élèves qui ne lisent pas, donc elle ne fait pas de lien lecture-écriture. En revanche, le tissage, elle le fait à partir des films d'horreur, parce que ça, en revanche, les élèves regardent. Voilà. Et donc, Lise, elle utilise le schéma narratif et le schéma actentiel. Alors, elle est un peu atypique, hein, quand on regarde son profil. Parce qu'en fait, l'explication elle est simple, c'est que l'année précédente, Lise était un professeur néo-titulaire, j'ai peut-être dit stagiaire, en l'occurrence c'est un professeur néo-titulaire. Et l'année précédente, lors de l'année de stage, c'était un professeur qui était en sixième. Donc en fait, elle redéploie son vécu face à une classe de sixième avec des élèves de lycée. Donc elle s'inscrit dans une filiation de narratologie appliquée, mais elle ne fait rien sur la focalisation. Aude, de son côté, s'inscrit aussi dans cette filiation de la narratologie appliquée qui est très présente dans les pratiques d'écriture, en fait, on le voit, y compris au lycée. Mais il y a une contradiction dans sa pratique parce qu'elle donne le schéma narratif, elle donne le schéma de la nouvelle fantastique de Roger. C'est-à-dire introduction, avertissement, aventure, peur, dénouement tragique. Et en même temps, elle change le modèle, elle change de structure elle écrit ça au tableau. Et en fait, lors de ses conseils oraux, elle va se référer uniquement au schéma narratif, qui est une forme de proto-récit beaucoup moins bien adaptée, finalement, à la nouvelle fantastique que ce qu'elle a écrit au tableau. Dans tous les cas, et là ça renvoie aux travaux de Didier Collin et Jacqueline Terranova, On constate une conception étapiste des processus rédactionnels. Et en fait, cette conception étapiste, moi, j'ai remarqué qu'elle était présente dans les programmes précédents hein, de lycée. Donc il y a une importance qui est donnée aux opérations textuelles dans la pratique de lise, avec une évaluation subjective et valorisante comme dans le modèle des ateliers d'écriture. Et une écriture valorisée, pour elle, est une écriture où le fantastique intérieur va être présent. Voilà. Aude, en revanche, va avoir... j'ai dit qu'elle utilisait une grille d'écriture. Bon, alors, c'est une grille qui reprend... C'est une grille qui est évaluée sur 160 avec une multiplicité de critères sur une feuille A3. Et il y a une toute petite part de subjectivité qui est sur 5 points, une note qu'elle appelle coup de cœur. Voilà, donc en fait, c'est différent. Lise, c'est un petit peu... avec Aude et Lise, on est un petit peu dans des pratiques différentes parce que Lise autorise le travail collaboratif, mais ne le met pas comme quelque chose d'obligatoire. Et Aude fait travailler uniquement, elle a un petit groupe d'élèves, ils sont une douzaine, une quinzaine peut-être, je ne sais plus bien exactement. Et en fait, elle les fait tous écrire individuellement. En fait, les étayages s'en ressentent. Hein. Plus on fait écrire individuellement, moins on peut passer derrière les élèves. Alors... j'ai fait passer des questionnaires aussi aux élèves pour savoir quel était leur ressenti par rapport aux aides qu'ils avaient reçues. Alors, je ne rentre pas dans le détail des questionnaires que j'ai fait passer, mais ça ressemble à ça, si vous voulez. Il y a, par exemple, cet item. Le professeur nous a incité à faire référence à des événements mystérieux, étranges ou qui font peur. Et non, un peu, moyennement, d'accord et tout à fait. Et on voit que selon les groupes, ou selon les élèves, il y a une appréciation très différente. Hein, certains disent carrément, bah non, le professeur, pour écrire un texte fantastique, ne nous a pas incité à faire peur ou à introduire du mystère dans mon récit, et d'autres disent plutôt oui. Alors, maintenant, un petit bilan sur l'accompagnement de l'écriture de fables. En fait, ici, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile de trouver des points communs en écriture de fables. Les professeurs, il s'agit toutes de femmes, donc c'est pour ça que je mets un E, insistent sur les procédures plus que sur les caractéristiques génériques. Les préoccupations sémantiques, c'est-à-dire les contenus textuels, dominent par rapport aux interventions sur la langue. Et ça, quel que soit le niveau. Hein, parce que il y a des difficultés au niveau des contenus qui font que finalement on se focalise moins sur la langue, y compris à l'école primaire. Voici par exemple ce qui se passe au niveau du comptage des unités étayantes. Sarah, professeur d'école primaire, Isabelle, professeur de collège en 6e, et Paul, professeur belge en 4e secondaire, c'est-à-dire équivalent seconde pour nous. Sarah passe 43,5% des unités étayantes sur le personnage, c'est-à-dire 71 unités étayantes sur 164 portent sur le personnage. Il y a une réelle difficulté des élèves de CE2 à écrire une fable parce qu'il coince au niveau du personnage. Je vais vous dire pourquoi après. Isabelle, en classe de 6e, 19% des unités étayantes portent sur le personnage, c'est-à-dire 53 unités étayantes sur 283. Et Paul, 25% des unités étayantes portent sur le personnage, 27 unités étayantes sur 108. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Sarah a... conçu un outil d'étayage écrit où elle donnait des exemples d'animaux et à côté elle donnait ce qu'ils pouvaient symboliser, c'est-à-dire leur valeur allégorique. Mais elle leur a dit, vous n'êtes pas obligé de prendre dans cette liste et vous pouvez choisir d'autres animaux. Donc les élèves n'ont pas utilisé cet étayage écrit. Ils l'ont laissé de côté et ils ont choisi les animaux sur des critères purement affectifs et non sur des critères qui permettaient de faire le lien entre la morale et le récit. Donc après, elle a perdu beaucoup de temps à leur dire que finalement le choix de tel animal n'était pas pertinent, qu'il fallait essayer d'en trouver un autre. Et puis comme il s'agit d'une écriture collaborative, les élèves ne sont pas tous d'accord sur le choix de l'animal. Donc finalement, on passe de l'amygdale au serpent, à l'anaconda, et puis après c'est le chien et le cheval, etc. Donc en fait, c'est une réelle difficulté. Isabelle, elle, en revanche, impose des couples d'animaux en relation avec une morale. Et donc les élèves choisissent tel couple d'animaux avec telle morale. Et si celui-là ne plaît pas, ne leur plaît pas, ils en choisissent un autre. Du coup, il n'y a pas la même, on va dire, centration sur le personnage. Elle peut se focaliser sur d'autres difficultés. Paul, en revanche, laisse libre. Et on voit que des élèves de lycée, finalement, quand on les laisse libres de choisir le personnage, eh bien, vont rencontrer un petit peu plus de difficultés que quand on les contraint un petit peu plus. Les professeurs incitent très peu au déplacement d'unités textuelles. On retombe un petit peu sur ce que vous disiez, mais vous, vous étiez du côté des élèves. Les élèves, on sait qu'ils déplacent très peu dans leur texte, mais on remarque aussi, grâce à cette étude, que les professeurs, quand ils donnent des conseils oraux, n'incitent quasiment pas, non plus, à déplacer du texte dans les copies derrière lesquelles ils passent. Les trois professeurs accompagnent l'écriture sans grille d'évaluation et de réécriture, y compris Isabelle, que j'ai observé lors de l'écriture de Nouvelles Fantastiques et qui, en revanche, pour la Nouvelle Fantastique, utilise une grille d'écriture. Elle n'en utilise pas pour la fable. Aucun des professeurs observés n'utilise une grille d'écriture pour la fable. Pourquoi ? Je n'ai pas de réponse. Enfin, je dois en avoir une, mais peut-être qu'elle m'échappe parce que j'ai dû poser la question. Et puis c'est quelque chose dont on se rend compte au fil des observations, donc on ne le demande pas forcément. Ce que j'observe également, c'est que la démarche est différente à l'école primaire et dans le secondaire. Nous avons une démarche ascendante à l'école primaire, et là je reprends le terme de Michel Fabre dans « L'enfant et les fables ». Une démarche ascendante, c'est-à-dire que Sarah demande d'abord, et Claudine Garcia-Deban aussi dans « Objectif écrire », disait que c'était plus facile, même pour des élèves de CM1, d'avoir cette démarche ascendante, c'est-à-dire d'abord écrire le récit et avoir une démarche explicative de lecture. C'est-à-dire, une fois que le récit est écrit, on cherche la morale. Bon. Donc c'est la démarche adoptée par Sarah. En revanche, les professeurs de secondaire ont plutôt une démarche qui est une démarche argumentative. On part d'une idée et on va faire écrire un apologue. C'est-à-dire un récit qui illustre cette idée. Donc c'est une démarche plus argumentative, tandis que la première est une démarche plus narrative ou explicative. Voilà, donc maintenant, quelques mots sur l'incidence des niveaux scolaires sur les unités étayantes. Et là encore, je vais retomber sur certaines de vos observations à M. Collin et Mme Terranova. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement de l'écriture dans les deux classes d'école primaire, Cyril et Sarah, ce que j'ai observé pour le degré d'intervention. Nous avons des guidances a priori minutieuses, c'est-à-dire que nous avons des préparations très soignées, avec des grilles d'écriture extrêmement soignées, précises. Beaucoup de guidances procédurales, c'est-à-dire que les élèves, Cyril, utilisent l'informatique, donc ce qui accroît le phénomène, parce qu'il va devoir expliquer comment on enregistre, comment on utilise un vérificateur orthographique. Donc ça accroît considérablement les guidances procédurales en nombre. Il y a des guidances. Alors, chose curieuse, les enseignants de l'école primaire donnent d'abord des conseils très généraux, puis des conseils beaucoup plus particularisés, parce que au fur et à mesure que l'écriture avance, parce que quand elle s'élabore, on est en mesure de répondre à ce qui est construit. Puis, quand on arrive en fin de séquence, il y a urgence à boucler et puis à rendre peut-être quelque chose, à plus forte raison quand il s'agit d'un projet qui va être socialisé, de parfaitement présentable. Donc on procède à des corrections sur les contenus textuels ou linguistiques. Les guidances représentent 45% des unités étayantes pour Cyril et 46% pour Sarah. On tombe sur des chiffres à peu près similaires. Et ce sont des professeurs débutants. Qui construisent leur relation à l'élève et on constate un très fort nombre de pilotages d'autorité. à plus forte raison peut-être pour Cyril, qui est en ZEP, avec une classe réputée difficile. Les modèles disciplinaires en acte, on a vu un certain nombre de points communs, une approche coopérative en projet, avec un souci de socialisation. On va dire, ils conçoivent l'écriture comme écriture-réécriture, hein, donc génétique des textes est sans doute passée par là. Ils ont des traces du modèle de la rédaction, c'est-à-dire le souci d'écrire sans erreur morphosyntaxique, et puis des choses qui sont dans la lignée de la narratologie appliquée, c'est-à-dire le réinvestissement du schéma narratif. Et enfin, pour ce qui est des contenus textuels, les deux pratiques d'école primaire sont très focalisées sur l'utilisation d'adjectifs qualificatifs dans l'un des cas pour caractériser les animaux et dans l'autre cas pour faire peur. On pense qu'en utilisant des adjectifs qualificatifs, on va faire peur. Et enfin, c'est l'utilisation du traitement de texte. Voilà. À l'école primaire, on utilise le traitement de texte, en tout cas dans les pratiques observées ici. Pour ce qui est de l'accompagnement de l'écriture chez un même professeur à deux niveaux différents, c'est le cas d'Isabelle. Voici ce qu'on observe chez elle. Donc un certain nombre de points communs dans sa pratique en sixième et en quatrième sur deux genres différents, la fable en sixième, la nouvelle fantastique en quatrième. Les guidances dominent, c'est à hauteur de 30% en sixième et 47% en quatrième. Il y a donc un petit peu plus de guidance en quatrième, comme si elle laissait les élèves plus autonomes. Elle s'ingénie à ne jamais, avoir recours à des sollicitations détournées. Elle s'efforce toujours de répondre aux problèmes qui lui sont posés. Elle donne beaucoup d'importance au lexique dans les deux cas. Et elle s'efforce de faire caractériser les personnages ou les états d'âme en quatrième. Caractériser les personnages en sixième et caractériser les états d'âme en quatrième, on comprend que c'est important pour le fantastique. J'ai mis en vert les préoccupations qu'elle a d'un point de vue pragmatique, on va dire. Elle fait supprimer ce qui est grotesque hein, dans l'écriture des fables en sixième, ce qui paraît pas sérieux. Et en quatrième, elle incite beaucoup à rechercher, à produire des effets sur le lecteur, des effets de peur. En sixième, elle fait insérer des éléments descriptifs et des dialogues, tandis qu'en donc elle fait ajouter des dialogues, tandis qu'en quatrième, elle en fait ajouter, mais elle en fait aussi supprimer, parce qu'elle estime qu'en quatrième, les élèves doivent apprendre qu'il y a des descriptions qui ne sont pas utiles, voilà, et qu'il vaut mieux les enlever. En sixième, elle a recours à la structure du schéma narratif, tandis qu'en quatrième, elle utilise un outil beaucoup plus récent qui est beaucoup plus précis, la structure de la nouvelle, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, hein, d'ailleurs, notamment avec, elle insiste particulièrement sur la fin qui doit être ambiguë. Et ça, c'est un point de difficulté très fort des élèves qui avaient compris à la lecture que une nouvelle fantastique devait être ambiguë et laisser planer le doute entre explication rationnelle ou irrationnelle, mais ils ne l'avaient pas compris, et je crois qu'on a dit ça à un moment donné dans la formation, qu'il y avait une sorte de rupture entre ce qu'on pouvait comprendre en lecture et ce qu'on mettait en œuvre en écriture. Ce n'était pas forcément le même monde. Et justement, les élèves le ressentent à ce niveau-là. Et enfin, une écriture à la troisième personne pour la classe de sixième et une écriture à la première personne en classe de quatrième. Alors on peut se dire, ça peut être pour favoriser le fantastique. Pas du tout, c'est pour faire utiliser le passé simple. Voilà, alors, l'accompagnement de l'écriture en fin de secondaire, voilà ce que ça donne. Donc, Lise et Aude utilisent le schéma narratif avec des liens qui sont faits, donc d'ordre tissage. Dans le cas de Lise, avec la littérature de jeunesse, mais Aude n'a pas des élèves littéraires, donc elle a fait des liens avec le cinéma. Elle s'efforce à travailler les effets à produire, parce que dans les programmes belges, on est beaucoup du côté de la communication. Donc, elle insiste, sa définition du fantastique est axée sur le fantastique, c'est ce qui fait peur. Et on trouve un petit peu la même chose dans la pratique de Paul, le professeur belge de 4e secondaire, c'est-à-dire, je le redis, niveau seconde général. La fable, c'est ce qui vise à persuader. Donc, ça s'inscrit dans une séquence persuadée. Donc, et elle est aussi du côté de la créativité de la subversion, elle est de la parodie, le pastiche, etc. Donc elle reprend des notions littéraires qui sont dans les programmes des programmes belges. Voilà, Lise est du côté des ateliers d'écriture, donc elle aussi, elle est un petit peu côté créativité. Hein, voilà. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que dans les pratiques de fin de secondaire, l'esthétique est toujours laissée en marge. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas au moment de l'écriture de préoccupations stylistiques, alors qu'on fait tout le temps ça en lecture. La lecture analytique vise à mettre en évidence un certain nombre de procédés. Or, ces procédés ne sont pas repris quand on parle d'étayage en écriture. Et quand on passe dans les rangs, on se préoccupe plutôt des personnages, des événements et de la notion de clôture de la nouvelle ou la morale. Donc l'écriture est centrée sur l'histoire, l'écriture elle est centrée sur la communication, mais elle n'est pas centrée sur des problèmes d'ordre stylistique ou sur des problèmes d'ordre esthétique. Et donc il y a une rupture, et on en a parlé également, entre non pas école primaire et secondaire, mais plutôt, et ça on l'a dit je crois, entre petite classe et grande classe. C'est-à-dire, moi la rupture je la vois plutôt niveau 5e, 4e, parce que jusqu'à 5e, 4e, les professeurs sont très centrés sur, on va dire, la lettre du texte, et après c'est plutôt le contenu du texte qui prend le dessus. Voici à titre d'exemple quelque chose de révélateur, l'accompagnement de l'orthographe par l'étayage oral dans trois classes de fin de secondaire, Lise, Aude et Paul. Paul, par exemple, alors Paul, je l'ai observé simplement sur une heure, hein, donc ça explique peut-être cela. Mais à aucun moment, elle n'intervient, mais les élèves avaient commencé l'écriture chez eux. À aucun moment, elle ne fait une remarque sur l'orthographe. Alors qu'il y avait des erreurs, bien sûr. On n'imagine pas que les élèves ne fassent aucune erreur orthographique. Et j'ai recensé in extenso, ici, sur cette diapositive, et ça représente 4 heures pour chaque, on va dire, pour chaque séquence, au minimum. Hein. Tout ce qui a été relevé, tout ce qui a été dit au niveau des corrections orthographiques à l'oral. Bah, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Alors que c'est quelque chose qu'on va traiter énormément à l'écrit. Donc, je terminerai sur l'influence des programmes nationaux du secondaire et sur les conceptions de l'écriture. Donc, j'ai deux enseignants français et deux enseignants belges. Écrire, c'est réécrire. Côté français, hein, nous avons une conception narrative de la fiction. La langue est très accompagnée jusqu'à la fin de la quatrième. Et les professeurs, lors des entretiens, affirment qu'il y a de forts besoins en formation en écriture de fiction. Du côté belge, nous avons une centration sur des stéréotypes et sur la pragmatique du texte, une prédilection pour l'argumentation. La langue n'est pas accompagnée du tout dans les pratiques que j'ai observées, hein, bien sûr. Les professeurs se sentent très désarmés pour ce qui est de l'écriture de fiction parce que les programmes ne leur laissent pas le temps pour cela. Ils sont centrés sur l'argumentation et la lecture littéraire. Et ils affirment de gros besoins en formation, en accompagnement de l'écriture, et également pour corriger des copies. Ça, ils font un petit peu quand même. En conclusion, dans les classes observées, l'écriture est toujours travaillée comme une écriture à programme, donc une écriture qui sous-entend une planification. Il y a une forte présence de la narratologie appliquée, sauf chez Paul, particulièrement pour la planification avec le schéma narratif. Nous avons des postures de surétayage au niveau des événements, de la maîtrise de la langue en cycle 3 pour les deux classes observées, et au contraire une posture de sous-étayage pour ce qui est de l'accompagnement de l'orthographe dans les pratiques observées du secondaire supérieur et du lycée, par opposition justement aux pratiques observées en CM1, CM2 et collège. Voilà, je crois que j'ai fini.